C'est sûr que Maître Renard, par l'odeur alléchée,
lui aurait rendu cet hommage.
On était bien parti tout à l'heure, on se referait bien une petite danse, hein? Ouais. Tu veux dire quelque chose, Thomas? Hein?
Alors comme ça, vous voulez une petite danse? Eh bien, pour vous, ce soir, vous avez en exclusivité l'honneur de voir le danseur Galabru venir vous interpréter la petite danse. Encouragez-le bien fort, s'il vous plaît. Encouragez-le bien fort pour qu'il vienne.
C'est fou. C'est du direct, hein. C'est du direct. Nous sommes à l'antenne.
Bah, d'accord, mais s'il danse, tu lui fais la musique, hein. Alors, c'est parti.
Qui c'est celui-là? Complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et lui sa bagnole les gars, elle est drôlement bizarre les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Là, un drôle d'accent ce gars-là. Là, une drôle de voix. On va pas se laisser faire, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Non, mais ça va pas, mon petit gars. On va le mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça, je ne suis pas un playboy, je ne fais pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de fouine. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille. Et leurs maris disent de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars, elle est drôlement bizarre, les gars. Et ça se passera pas comme ça, ce n'est pas ma faute à moi. Si les femmes mariées préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée, elles aiment mes cheveux blonds et mes yeux polissons. Mais je crois que ce qu'elles préfèrent, c'est mon petit ventre rond. Et leurs maris disent de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Ou zoukoton, conté, conté, con, complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars, elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça, ça. Voyant que sur cette terre, ça, tout n'était que vice. Et que pour faire des affaires, je manquais de balise. Je montais dans mon engin interplanétaire. Et je ne remis jamais les pieds sur la terre. Et s'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole les gars, elle est drôlement bizarre les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
Un drôle d'accent ce gars-là.
Pendant ton vélo, ton mandolier de voix.
On va pas
se
faire les gars. Qu'est-ce qu'il a? Non mais ça va pas, mon petit gars.
On va le mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
Rentrer au carnet. l'amour est fatigué, t'as l'envie pour nous de faire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur,
je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, et c'est Idéaux et débat qui commence, le numéro Idéaux et débat de rentrée littéraire, avec au programme deux ouvrages très différents, et donc c'est un choix très varié, mais c'est toute la richesse de la littérature qui se traduit ainsi. Et donc en première partie, nous avons eu le bonheur et vraiment le grand plaisir de pouvoir interviewer Hernán Díaz. Hernán Díaz, c'est le prix Pulitzer 2023. Il était de passage à Paris pour parler de son roman intitulé « Trust » et qui paraît en français aux éditions de l'Olivier, roman qui lui a valu ce fameux prix Pulitzer 2023. Donc on est très 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 content d'avoir pu le rencontrer à cette occasion. Vous allez retrouver dans quelques instants cet entretien. Et en deuxième partie, la joie également de retrouver Alma Brami pour un roman absolument vertigineux qui s'intitule « Ils sont moi, je suis eux », roman sur la maternité, entre autres, et qui est paru aux éditions Mercure de France. Alors, voilà pour le programme du jour. C'est un riche programme. On retrouve tout de suite Hernán Díaz, qui, bien sûr, parle en anglais. Et donc, vous aurez une version doublée. Et je remercie Aurélien d'avoir prêté sa voix pour ce doublage d'Hernán Díaz.
Chic, chic, d'être populaire. Est-ce que
réseaux et les filets aux fiches. Tu le sais ma biche, si j'étais riche, je serais pas sous le Porsche à vendre du chichon. Je roulerais en Porsche si j'avais du pognon. T'as juré sur ta vie et pour des thunes tu m'as trahi. Une femme sous influence, c'est comme un lascar qui dépense. On vit dans la même France, mais dis-moi à quoi tu penses. Je sais, je suis un barbare, appelle-moi Attila le 1. Excusez-moi messieurs si je vois ma vie comme celle d'un chien. Si j'étais riche.
Si t'étais riche.
Ma chérie, ma maladie, ma love story. Une bague au doigt et je t'emmène à la mairie. Si tu me suis pas, je me fais haraki riche. Quand je serai riche, à 60%, il y aura de la thune même pour mes petits-enfants. Ah, si j'étais riche.
J'ai refait mes ratiches et je roule en merceau. Si quand je filais ton fiche. Quand je filais ton fiche, je vais au McDo. Oui, oui.
Si j'étais riche. Si j'étais riche, oui, je suis pas riche, mais je suis pas riche.
Et moi, je suis des classes moyennes, ni bas ni haut. Je ne connais plus la chaîne du compte à zéro. Tu seras riche dans Gineco.
Oui.
Tu seras riche grâce à tes mots. Tu seras riche. Digi, 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 yeah. Et tu t'en fiches. Tu te balades sur M6. M6, c'est riche. Oh.
Oui.
Un petit bonjour à la grange aux belles. Depuis un moment qui m'appelle. Pour dire en rap.
Quand je serai riche, c'est fini.
C'est toujours pour Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la voix sans maître, sans dieu et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence, avec aujourd'hui le grand plaisir de retrouver Hernán Díaz pour son magnifique roman intitulé Trust, qui est paru aux éditions de l'Olivier, dans une traduction de Nicolas Richard. Il faut savoir que ce roman a reçu le prix Pulitzer en 2023 aux États-Unis. Alors je suis très contente. Merci Hernán Díaz et merci parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. Et la première, c'est qu'il y a un auteur américain qui s'appelle Philip K. Dick qui a beaucoup travaillé dans son œuvre sur ce que c'est que la réalité. Et à un moment même, il a postulé le fait que peut-être la réalité, c'est ce qui continue d'exister quand on a cessé d'y croire. Et c'est un peu la question qui se pose dans votre livre. En effet, qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce que c'est que la fiction? Dans ce roman, les personnages croient à beaucoup de choses et nous allons en parler au cours de cet entretien. Mais tout d'abord, nous allons parler du titre, Trust, et du caractère polysémique en anglais de ce mot, car j'imagine que c'est tout à fait volontaire.
Oh, of course. Well, thank you, first of all, for having me on the show. I'm very grateful. And yes, it was a good day when I came up with this title, Trust, which has this
Merci pour commencer de m'avoir invité dans l'émission, je vous suis très reconnaissant. Et c'était une bonne journée, effectivement, quand j'ai trouvé ce titre Trust qui a cette double signification. D'un côté, bien sûr, ça fait référence à deux termes financiers. Le premier est un synonyme proche de monopole, et le second est le fait de confier des fonds à un tiers parti qui en prend soin jusqu'à ce que le destinataire final de ces fonds soit prêt. Et ensuite, bien sûr, ça fait aussi référence à la confiance. Ce mot trust a une forte composante émotionnelle. C'est très lié à la croyance, oui. Et dans ce sens, je pense que vous le savez, les systèmes financiers, s'ils sont basés sur l'argent, ont aussi beaucoup à voir avec la narration, avec la fiction et le fait de raconter des histoires. Toutes ces choses, l'argent, la finance, la fiction, s'appuient sur la croyance. Elles s'appuient toutes sur la confiance, elles s'appuient toutes sur une forme de foi. Si on ne croit pas une histoire, l'histoire perd son intérêt. Si on ne croit pas en une monnaie ou en certaines institutions financières, elles sont condamnées à s'effondrer. Donc, je pense que c'est une des nombreuses similarités que je vois entre la fiction et la finance.
They all rely on confidence, they all rely on trust. If we don't believe a story, the story loses interest. If we don't believe in a certain currency or in certain financial institutions, they're doomed to collapse. So, I think this is one of the many similarities that I find between fiction and finance.
Alors, Hernán Díaz, ce roman Trust se passe au début du XXe siècle dans le milieu de la bourse, puisque l'un des personnages principaux est un analyste financier qui a un talent inné pour la spéculation. Il va mener une vie qui va le rendre de plus en plus riche, il va se marier. On parlera des personnages dans quelques instants. Mais vous avez dressé au travers d'eux le portrait de l'Amérique de cette époque, cette Amérique qui vit aussi sur la fiction, sur les apparences. Ce décor et cette époque sont particuliers, avec une forte impression d'irréalité.
Je ne suis pas sûr de comprendre correctement votre question. Êtes-vous en train de dire que cette période de l'histoire en Amérique s'appuie sur la fiction ?
Sur les apparences, tout est faux d'une certaine façon.
Is false in a certain way.
I mean, it's interesting because what period in history does not relay on appearances and certain falsities and falsehoods to represent itself? I think.
Oui, oui, c'est intéressant parce que quelle période de l'histoire ne s'appuie pas sur les apparences, sur une certaine fausseté, sur le mensonge pour se représenter. Je pense que c'est le cas même pour le présent. L'histoire que nous racontons sur notre propre situation dépend tellement du mensonge. Ce sujet m'intéresse et c'est pourquoi le livre essaye vraiment de penser aux limites évanescentes entre l'histoire et la fiction et comment l'histoire s'appuie ou plutôt est le résultat d'opérations rhétoriques à des fins idéologiques. Je ne dis pas que l'histoire n'a pas eu lieu, je ne suis pas Philippe K. Dick. Je ne dis pas que ça a été complètement fabriqué ou que c'est une simulation. Bien sûr que tout est bien arrivé. Mais la manière dont ça est raconté est hautement idéologique. Et nous avons besoin d'être des lecteurs critiques des faits. Vous avez utilisé un mot que je pense très important qui est le mot « apparence ». Je pense que le monde des apparences est tout à fait crucial dans ce livre et dans le monde de la finance en général. Parce que si vous regardez n'importe quelle grande fortune, elles ont toutes besoin d'une narration autour. C'est juste simplement insuffisant d'avoir beaucoup d'argent. Il faut aussi avoir une histoire sur comment vous avez acquis cet argent. Pourquoi il est légitime ? Cela nécessite une construction, une certaine épopée de cette fortune. Tout ceci est un jeu d'apparence. Et bien sûr, au centre de ce roman Trust est la question du genre. Et là aussi, les apparences sont très présentes. Tous les hommes dans ce livre doivent se conformer à l'image du mâle puissant, invincible, monumental, et ce point est un des moteurs du livre.
It's just simply not enough to have a lot of money. You also have to have a story about how you acquired this money, why it's legitimate, and why sort of construct a certain epic tale of this fortune. That has to do with appearances, and then of course. At the center of Trust, this novel, there is the issue of gender, and I think appearances here are very important in the sense that all the men in the book need to keep up with the appearance of the powerful, invincible, monumental man. You know, that's a very important sense of appearance and a projection of selfhood. That is at the core of the book. Yeah.
Oui, les apparences sont très importantes dans ce livre, car en fait, c'est la première période dans l'histoire où des gens ordinaires peuvent devenir célèbres, et ceci grâce à l'argent et à la fiction, comme vous l'avez évoqué. Et c'est le cas du personnage principal.
Yes. I don't think the book is interested with celebrity, and I am not interested. That's not a thing that I'm.
Je ne pense pas que le livre parle de célébrité, en fait. Je ne m'intéresse pas à ça. Ce n'est pas vraiment mon sujet.
The whole issue of celebrity and fame.
Oui, je comprends, mais c'est quand même la première fois qu'un inconnu, qui n'est ni prince, ni roi, ni noble, ni rien, peut devenir célèbre. Il n'est personne, et l'argent fait de lui quelqu'un qui a le pouvoir.
I understand what you're saying, but again, celebrity and fame are not concerns of this book at all for me. It's a or social recognition in that sense. All the characters in the book are slightly misanthropic.
Yes.
They're very withdrawn. They're very isolated. They do not like attention.
Je comprends ce que vous voulez dire, mais la célébrité ou la reconnaissance sociale ne sont pas le propos du livre. Tous les personnages du livre sont légèrement misanthropes, ils sont plutôt isolés, n'aiment pas les attentions. En fait, quand j'ai commencé à penser au livre, j'ai imaginé de parler de l'extrême richesse. D'un côté, l'extrême richesse qui donne le plein accès à tout, mais de l'autre, qui entraîne le confinement, l'isolement et surtout la solitude. Oui, d'un côté le plein accès et de l'autre le retrait de la société. C'est l'opposé de la personne célèbre qui se montre. Mes personnages ne poursuivent pas ce but, pas de projet politique, pas de réseautage, pas d'ambition. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Eux, leur but, c'est simplement l'argent.
On the one hand, this full access. On the other hand, this withdrawal from society. It's the opposite of fame and exposure in that sense. What I liked was What I was interested in was precisely money for money's own sake. Mm. There isn't these characters are not pursuing any kind of wild experiences or access or meeting other people or gaming the political system or being in the newspapers.
Not at all.
That's not what they care about. They simply care about money.
Yes.
That's right.
Oui, mais avec l'argent est la fiction de l'argent, et cette fiction oblige vos personnages à porter les habits de la richesse.
Yes, well, there was a part in the book where you know the book, as you know, I'm just stating it. The book begins with a whole novel within the novel, where we get all these.
Comme vous le savez, le livre commence par un roman dans le roman, et tous les personnages sont décrits comme des personnages de fiction du livre dans le livre. Et dans ce roman, un homme riche devient encore plus riche, extraordinairement riche. Et comme vous l'avez dit, il doit emprunter les allures et manières d'un homme riche. Mais le fait d'être riche ne le rend pas du tout heureux. En fait, il doit jouer le personnage de
l'homme riche.
Maintenant, nous allons parler de sa femme, qui est un des personnages importants du livre. Mais avant de parler d'elle, il faut parler de son père, car dans votre livre, les pères sont particuliers.
Yes. Well, you know, to an enormous extent, this book is a book about the patriarchy and misogyny. I think these are very important concerns about the book and in the book, and I wanted to write about them.
Oui, d'une certaine manière, ce livre traite du patriarcat et de la misogynie. Ce sont des sujets importants. Le vrai patriarche, le plus prégnant du livre, est cet homme qui n'a pas de nom, mais qui est le père d'un autre personnage féminin, Ida. Ida est une femme que nous rencontrons dans le livre alors qu'elle est âgée, dans les années 70, et qu'elle revisite sa jeunesse dans les années 30. Elle est écrivain. Elle repense à son premier emploi, qui était d'être secrétaire de Somania. Son père est un anarchiste italien qui a émigré aux USA au début du siècle, comme l'ont fait tant d'Italiens. Et ce père est vraiment un personnage important, car malgré les engagements politiques, révolutionnaires et de gauche qu'il a, à la maison, c'est un réactionnaire, un conservateur dans les affaires domestiques. Cela me permet aussi de parler du travail des enfants, car sa fille, quand elle est jeune, est en charge de tout le travail ménager. Je voulais vraiment montrer comment la misogynie et la vision patriarcale du monde sont au-delà de la question des classes ou des idéologies. Il y a tant de gens, d'hommes qui sont comme ça, qui parlent de révolution et pourtant se comportent ainsi. Peut-être que la révolution devrait commencer dans la cuisine.
And again, this man, this father is the only father we get to really meet. And the crucial thing about him is that despite his left-wing radical revolutionary politics at home, he's a reactionary and conservative in his domestic politics and, you know, effectively resorts to child labor just because his daughter is, you know, a girl or a young woman, so she does absolutely all the work in the house. And so I guess what I was getting at is how, again, misogyny and this kind of patriarchal view of the world cuts through class divides and ideological lines, and there's so many people, men who are like this, and I've met them, you know, who talk about the revolution but then expect women to serve them. Yes, so perhaps the revolution should start in the kitchen.
Yes.
Side. It's time when you know it's the you.
C'est aussi le cas du père d'Hélène. Il y a un jeu de miroir entre les deux pères. Ils veulent prendre soin eux-mêmes de l'éducation de leur fille, et dans les faits, ils sont d'une extrême sévérité.
They are. Yeah, this is a book that is a lot about doubles and about reflections and repetition and inversions, as in a mirror, you know, you have the same image, but it is inverted. And this is something, you know, that it's a motif, a formal kind of leitmotif that is very intentional. And I was hoping the reader would pick up on that. So thank you for mentioning that. Yes, there is this other father who is also... I think what they have
oui, le son. C'est un livre qui joue avec le thème du double, du reflet, de la répétition, de l'inversion. Comme dans un miroir, vous avez la même image, mais inversée. C'est un motif formel, une sorte de leitmotiv qui est tout à fait intentionnel et j'ai l'espoir que ce soit perçu par le lecteur. Alors merci à vous de le mentionner. Alors oui, il y a cet autre père. Je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous les deux très dogmatiques. Ils réduisent le monde à une seule explication, et c'est peut-être aussi ce qu'ils partagent avec l'humanité. Et c'est drôle quand on y pense, parce que les businessmen ont en général une grande méfiance vis-à-vis de l'État. C'est ce qu'on retrouve au Parti républicain, cette notion de liberté des marchés, de ne pas intervenir, que tout se régule. Et le paradoxe, c'est que le père anarchiste a lui aussi une méfiance importante vis-à-vis de l'État, pour toute une série de raisons très différentes. J'ai trouvé ça drôle que ces deux hommes si opposés se retrouvent d'une certaine manière dans leur haine du gouvernement.
You know, also the Republican Party has been forever, you know, in this kind of religious and insane reading of Adam Smith. Just, you know, you don't touch the market, you don't intervene, it self-regulates, which is of course a lie. So there is this, again, this reticence when it comes to the state as an institution. And paradoxically, I feel that Ida's father, the anarchist, also has a mistrust and reticence when it comes to the state for a completely different set of reasons. But I found it kind of funny, actually, how these two very opposite men, they're so opposite that they meet at the other end, you know, when it comes to this particular thing and their mistrust regarding the state.
Oui, c'est intéressant. Mais pour continuer de parler de Trust, Hernán Díaz, votre roman paru aux éditions de l'Olivier, nous allons aborder maintenant sa construction. Vous avez évoqué le fait que la première partie du roman est un roman. Le lecteur commence à lire, découvre des personnages, puis quelque chose qu'on ne dira pas arrive et tout change. Vous prenez le lecteur et vous le manipulez pour son plaisir, un peu comme Borges qui le faisait fréquemment. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin, le personnage principal n'est pas celui qu'on le croyait, puisqu'en fait c'est le personnage féminin. Alors il est temps de parler d'elle.
Yes, we can talk about her, but first I would, and forgive me, but I have to speak up about the use of the word manipulate. I prefer to think that the reader and the book are
playing
together,
okay.
Because manipulation implies a certain form of deceit. A certain misuse of power No, it's fine. I just want to be clear that I don't like feeling manipulated.
Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur le mot manipuler. Je préfère utiliser le mot jouer parce que la manipulation implique la tromperie, une forme de mésusage du pouvoir. Je voulais préciser car, personnellement, je déteste être manipulé quand je lis. J'aime les surprises, mais j'aime aussi qu'on me traite avec respect en tant que lecteur. Je pense que mes lecteurs sont bien plus intelligents que je ne le suis. Aussi, je pense que je ne serais pas capable de les manipuler si je le voulais. Et je ne veux pas. Pour revenir aux quatrième et cinquième parties du livre, il s'agit du journal intime de la femme du mania. Oui. Elle est le vrai personnage principal. Elle et Ida sont les deux personnages importants. Mildred est son nom. Elle est un peu le fantôme qui hante tout le livre. Elle observe, mais on ne peut pas vraiment la toucher ou la voir. Elle est hors du champ, elle n'a pas de voix, ce qui est très important jusqu'à ce qu'enfin, à la fin du livre, nous puissions l'entendre directement.
And Mildred is the name of the tycoon's wife, and she is sort of the specter, the ghost, wafting through the whole novel. She's there, but we can't really touch her, we can't really see her, she's out of focus, she's opaque.
She's not speaking.
She doesn't have a voice, which is very important, ever, until finally we hear her directly.
At last. Enfin. At last.
Directly we hear her. And at last, as you say, literally, it was very important to me that all of this came at the end. Mm. And almost, you know, quite literally, her voice is buried underneath these three sections, big, long sections in the book. And then finally we hear from her diary, and you know, we meet this woman who is in a Swiss sanatorium excuse me, in the Alps, a little bit like Thomas Mann's Magic Mountain. And
enfin, comme vous dites, c'est très important pour moi que tout arrive à la fin. Sa voix est littéralement enterrée durant trois longues parties, et puis on l'entend au travers de son journal. Et là, on rencontre cette femme qui est dans un sanatorium suisse, un peu comme Thomas Mann dans La Montagne Magique. Elle est en train de mourir, et on est dans son esprit, dans son corps, et on entend ses dernières pensées. C'est là où tout le roman se rassemble comme une coda. Mais ce qui prouve que je ne manipule pas le lecteur, j'insiste, c'est que tous les indices sont parsemés tout au long du livre, donc il y a différentes façons d'expérimenter la lecture de ce roman. Soit vous arrivez à la fin et c'est une grande révélation, un moment d'épiphanie, soit il existe une autre expérience que font certains lecteurs, qui est de collecter, de rassembler toutes les preuves, et la satisfaction vient du fait de voir leurs hypothèses se confirmer. Mais à la fin, ça revient au même.
Which is they have been collecting and gathering all the evidence, and the satisfaction is to see, you know, their suspicions and hypotheses confirmed. But it all comes together in the end in this diary.
J'allais dire qu'en fait, tout au long du livre, on a affaire à une seule femme. C'est juste son apparence, son extérieur qui change, comme des rôles qu'elle endosse. Ce qui est important, c'est qu'Ida va faire tout le travail pour nous la montrer, pour nous la révéler, et ceci en cherchant obstinément et enfin en trouvant le journal de cette femme.
Yeah, and you know, this also, it's curious because, you know, I had this idea and I started thinking about it and writing it, and then it became, you know, this notion that it would end with this journal. And the curious thing is, then I started to do archival research and actually looking at the papers of real women who were married to real American magnates. And
c'est curieux, car j'avais cette idée de finir par le journal intime, et j'ai commencé à faire un travail de recherche dans les archives, dans les vrais journaux, à propos de femmes réelles qui étaient mariées à de vrais manias américains. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses authentiques dans le livre. Par exemple, l'anecdote de la boîte où se trouve le journal intime de cette femme qui reste si longtemps ignorée et négligée. Et c'est peut-être là la plus grande découverte que j'ai faite. C'est qu'au-delà de ce qu'il y avait dans ces pages, le plus important est que personne ne s'y soit intéressé.
In the pages was the fact that nobody cared about the pages.
C'est un roman qui parle de solitude.
Yes.
Oui.
Chaque personnage est seul, en fait.
Yeah, and I feel that is something that moves my work in general. I'm very interested in loneliness as an experience, as a condition, and also that's why in the end we have this character facing death,
Oui, dans mon travail, je m'intéresse à la solitude comme une expérience, comme une condition. Et c'est pourquoi nous avons ce personnage à la fin qui est face à la mort, qui est la chose la plus solitaire qui soit, qu'on ne peut partager avec personne. On ne le partage qu'avec soi, d'autant que je le sache. Il y a différentes formes de solitude. Je pense aussi à la solitude d'Ida dans la troisième partie, qui est entourée d'hommes. Elle n'a pas d'amis femmes comme soutien, et je voulais que ce personnage soit presque assiégé par ces hommes qui veulent tous quelque chose d'elle. Et elle est très seule au milieu de ce monde de gens qui se servent d'elle. Mildred, la femme du trader, est profondément seule également. Mais elle est la seule qui trouve un peu de bonheur dans la solitude, et je pense que ça nous arrive à tous par moments. La solitude, ce n'est pas forcément le désespoir. Il peut y avoir de grandes joies, de grandes réalisations et de l'accomplissement.
Everyone wants something from her, and she's very alone in that world of people wanting things from her. I think Mildred, the wife of the tycoon, is profoundly alone, but she's the one who really finds happiness in solitude. She, I think, and I think we all do sometimes. That is, not everything about loneliness is despair. I think there can be great joy and great realization in fulfillment in loneliness. And then we have, of course, the tycoon who is also lonely.
Puis nous avons le mania qui est aussi seul, en partie car il le souhaite, mais aussi malgré lui, car pourtant il a sa femme.
Mais il est incapable de vivre autrement.
Oui, c'est ça, il en est incapable.
Mildred aime les arts et la musique. Ida est écrivain, comme nous l'avons vu. Les femmes, d'une certaine façon, par leur créativité, arrivent à se libérer.
No. They are the protagonists and without a question the heroes of this film.
Oui, ce sont elles les véritables héroïnes de ce film, pardon, de ce roman.
Voilà, on arrive presque à la fin de cet entretien. Nous avons parlé de Trust, roman d'Hernan Diaz, paru aux éditions de Olivier. Merci beaucoup pour cet entretien.
Can you also say traduit par Nicolas Richard.
Pouvez-vous dire que c'est traduit par Nicolas Richard ?
Bien sûr. Alors, dernière question. Et maintenant, Hernan Diaz, qu'allez-vous faire ? Un autre roman en préparation ? Un autre projet ?
Always there are things cooking.
Oui, il y a toujours quelque chose qui mijote.
À petit feu ?
Yes, exactly. Simmering, a slow boil.
Exactement.
But I'm traveling so much now that it's a little hard to find the loneliness to sit down and write. Yeah, but it's there. It's coming.
Mais je voyage tellement en ce moment que c'est dur de trouver la solitude pour s'asseoir et écrire. Mais ça va venir.
Thank you very much.
Thank you so much. This is a lovely conversation. I'm very grateful. Thank you.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci également. C'était une conversation agréable. Je vous en remercie.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi, es-tu heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. J'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir me trouver.
j'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Mmh. Fallu-lui, fallu-lui, pour pouvoir dire pourquoi j'existe.
Voilà, c'était donc Hernán Díaz pour son roman Trust, qui est paru en français aux éditions de L'Olivier. Traduction superbe de Nicolas Richard. Je vous recommande la lecture de cet ouvrage parce que on en a parlé avec Hernán Díaz, mais il y a énormément de choses dans ce livre. Il est absolument fascinant. C'est toujours Idéaux et Débats, c'est toujours Radio Libertaire. Et il est temps maintenant de retrouver Alma Brami pour Ils sont moi, je suis eux, roman paru au Mercure de France. Roman qui est une spirale qui vous capte et qui ne vous lâche pas jusqu'à la fin du livre. Donc on retrouve tout de suite Alma Brami. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de discuter avec Alma Brami pour un très très beau roman, terrible roman, qui est paru aux éditions Mercure de France et qui s'appelle et qui s'intitule « Ils sont moi, je suis eux ». Et je dois dire d'emblée que j'ai adoré ce livre, que j'ai lu quasiment en apnée, tellement on est pris par l'histoire et tellement on retient sa respiration, qui nous laisse une impression très très forte. Je l'ai lu une première fois et je dois dire que j'ai occulté la fin, tellement j'étais pris et tellement ça m'a vraiment remué. Et je l'ai relu, et là, j'ai intégré la fin, mais c'est un livre d'une très, très grande force. Alors, je voulais savoir, Alma, comment était né ce livre ? Parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas très souvent, parce que quand on parle habituellement de la maternité, ce n'est pas vraiment sous cet angle-là.
Alors, moi, ce qui m'intéresse depuis toujours dans mes livres, c'est la famille. C'est les liens familiaux, et c'est ça qui me passionne. Et en fait, ce qui me passionne au sein des liens familiaux, c'est toujours cette difficulté-là d'être soi-même, de comprendre qui on est par rapport à l'autre et de ne pas se laisser entraver par les liens familiaux. En même temps, c'est un socle très important, essentiel, et en même temps, ça peut être des liens qui entravent. Et forte de ce constat-là, puisque c'est mon huitième roman, ça m'intéressait de m'attaquer justement à ce sujet-là, qui est en principe synonyme de douceur, de bonheur. Et en fait, j'écris avec mes peurs, tout simplement. J'écris avec ma peur. J'écris avec cette peur atroce d'essayer d'être une bonne mère et en fait de dépasser cette toute petite limite, cette limite extrêmement fine entre faire bien, faire au mieux de ce qu'on peut, et en fait de tomber dans la folie, dans l'extrême. Et c'est ça qui m'a fascinée dans ce personnage. C'est pour ça que je me suis mise dans sa peau. Et on sombre avec elle, en fait, on est dans ce vertige de « je vais tout bien faire, je vais être la meilleure maman, je connais, j'ai lu, je connais les injonctions de l'époque, je ne vais pas reproduire ce que ma mère m'a enseigné ou le carcan que j'ai pu éprouver pendant que j'étais enfant, etc. Je vais essayer de faire l'inverse de cette mère-là dans ce livre. » et puis finalement, elle fait l'inverse et puis elle fait peut-être pire.
Alors, c'est un livre, effectivement, où la violence affleure petit à petit dans le récit. Mais avant d'aborder la question du fond, Alma Brahmi, de ce roman « Donc ils sont moi, je suis eux » paru au Mercure de France, il faut parler de la forme d'écriture que vous avez choisie parce qu'elle est très, très importante et c'est elle qui donne aussi beaucoup de sa force au roman. D'abord, c'est elle qui parle, cette mère. Du coup, on est directement, on a l'impression qu'elle nous parle à nous. Et vous utilisez beaucoup d'infinitifs pour justement pointer toutes les injonctions et toutes les obligations. Et ça crée pour le lecteur une musique très particulière. Donc, comment vous êtes arrivé à ce choix ?
Alors, oui. J'ai écrit en suffoquant. Vous parliez tout à l'heure d'apnée.
Oui, c'est ça,
et
oui.
Moi, dans mon écriture, c'était la même chose. Mmh. C'est-à-dire que j'ai écrit en étant totalement enfermée en elle. Et en fait, elle scande, elle essaye de retrouver son souffle. Et c'est pour ça que les phrases sont très courtes. Et comme vous disiez, il y a des infinitifs. Les infinitifs ressemblent à des impératifs, d'ailleurs, dans la sonorité. Et en fait, elle essaye de coller à une liste qu'elle a établie, en fait, pour elle, pour l'éducation de ses enfants, pour qui elle doit être. Et c'est comme un leitmotiv. Elle se répète ce qu'elle doit faire. Comment elle doit agir. Et petit à petit, elle s'enferme dans des règles qu'elle s'impose. Peut-être que la société lui impose aussi, ou peut-être le regard de sa mère, ou le regard des gens qui peuvent l'entourer. Mais finalement, au bout du compte, c'est elle qui se les impose. C'est elle qui a envie d'atteindre ce fantasme-là, cet idéal-là qu'elle a en elle.
Oui, tout à fait. Mais ceci dit, elle est dans cette volonté de faire bien, entre guillemets, de contrôle. Ça, on va en parler dans quelques instants. Mais le roman va s'ouvrir sur quelque chose de différent, puisque, en fait, le roman va s'ouvrir sur le personnage de Bukowski. Et c'est une métaphore, une image qui est très, très forte. Et je crois que c'est important qu'on en parle un petit peu, quand même, de cette image de Bukowski pour se décrire elle.
En fait, je trouve que la difficulté dans la maternité, c'est en fait c'est un rôle tellement important, c'est une telle responsabilité, c'est tellement vertigineux qu'on peut parfois s'oublier. On entend souvent oui alors n'oubliez pas votre couple, faites attention, etc. Il y a toujours des mises en garde comme ça qui font partie de l'époque. Mais je pense que le plus important et le plus délicat, en fait, quand on est responsable, on vient de donner la vie, enfin, il n'y a rien de... Si on croit en Dieu, par exemple, à ce moment-là, on peut être que Dieu. On a donné la vie, on est responsable de cet être, on est responsable et de cet être, et de son éducation, et de sa santé, et de bien le faire grandir, et qu'il devienne un bon être humain. Et, enfin, c'est délirant, en fait, comme responsabilité. C'est une responsabilité qu'on impute, en plus, vraiment aux mères.
Et en même temps, c'est de la toute-puissance.
De très particulier. Oui, et puis alors il y a quelque chose aussi de terrible, c'est que il y a la jouissance aussi de cette toute puissance. Il y a aussi cette glorification, cet honneur d'avoir ce rôle extraordinaire et de pouvoir tout maîtriser, de pouvoir maîtriser et les pleurs et consoler et nourrir et savoir mieux que l'enfant lui-même ce qu'il lui faut. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait fou et de savoir mieux que tout le monde d'ailleurs. Souvent les mères se substituent même aux médecins, se substituent à tout le monde. Donc il y a cette idée-là. C'est presque un monstre qui grandit C'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est que une mère, si elle n'est finalement pas bien construite ou pas bien entourée, il y a cette toute puissance là qui l'envahit, qui est vertigineuse, qui fait peur et qui peut créer des dégâts monstrueux. Et en fait, cette femme là n'arrive plus à savoir qui elle est, puisque la seule chose dont elle est sûre, c'est qu'elle est mère. Il y a plus rien d'autre.
Il y a plus rien d'autre.
Elle ne sait plus, exactement, il n'y a plus rien d'autre. Elle ne sait plus s'identifier autrement que par ses enfants. Et donc, quand elle se retrouve face à son miroir, elle ne sait absolument plus qui elle est. Elle ne distingue plus ses contours, elle ne sait plus quelle couleur de peau elle a, elle ne sait plus si c'est une femme, si c'est un homme. Et donc, il y a ce Bukowski qui arrive dans le miroir. Et donc, on comprend aussi que par cette métaphore-là, elle ne se désire plus elle-même. C'est ça aussi qui est terrifiant. C'est qu'à force de regarder ses enfants, à force de les aimer, à force de les choyer, elle n'a plus la place en elle pour se regarder elle-même, pour se choyer elle-même. Et tout d'un coup, elle est remplacée par cette figure virile, mais qui peut être une figure d'épave, presque.
De déchéance.
On peut penser à l'émission, par exemple, qui revient régulièrement là, de Pivot, où il a apporté lui-même son alcool, où il tient pas debout, il titube, et en même temps, c'est un immense poète. Et puis, tout ça. Et en fait, j'ai pris cette métaphore parce que pour moi, il est ni identifié comme un homme ou comme une femme, Bukowski. Il est comme un être complètement en marge. Et c'est ce qu'elle voit, elle, dans le miroir. Elle est en marge. Elle ne sait plus qui elle est. Elle ne sait plus à quoi elle ressemble. Elle a pas peur d'elle au début, mais elle essaye de retrouver une connexion avec elle qu'elle ne retrouve pas. Et en fait, tout le livre, elle est à la recherche de cette connexion. Qui je suis, comment elle essaye de se mettre... Là, par exemple, j'ai du vernis. Elle essaye de se mettre du vernis. Elle essaye de se réidentifier. Mais se mettre du vernis, c'est pas quelque chose d'esthétique, c'est presque sentir son corps. Elle ne sent plus son corps, elle sait plus où elle est en elle.
J'fume le cigare comme une cubaine, le sandal rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je bois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je me noie. Je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je crois qu'on est tout seul avec soi, même si on n'en a pas l'air. Les amours tour à tour me mentent, je prends des tournants, je me tourmente. Je fais des pas sans y penser, les démons m'invitent à danser. Chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir, belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. Plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je crois, qu'on est tout seul avec. avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Deux âmes seules feront peut-être deux âmes sœurs pourront renaître. Deux âmes seules valent mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air.
Et en même temps, par rapport à son corps, elle est très ambivalente, et de cette ambivalence qui la caractérise et qui est en chacun de nous, puisqu'elle elle se maltraite aussi physiquement. Alors oui, elle s'identifie à Bukowski, elle perd ses cheveux, comme voilà, elle a un début de tonsure qu'elle essaye de camoufler, mais en même temps, elle a, par rapport à son alimentation, une attitude de plus en plus restrictive, elle est anorexique, et elle veut surtout ne pas se remplir, elle est dans le contrôle, dans la maîtrise, y compris par rapport à ce qu'elle fait pour elle, quoi. Il n'y a plus rien, il y a cette à la fois je contrôle mon alimentation, je mange de moins en moins dans un premier temps, jusqu'à me gonfler d'eau et de pectine pour que l'estomac soit rempli, donc c'est vraiment le strict minimum.
Oui, alors en même temps, en psychanalyse, on apprend, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que parfois on a un symptôme qui reste tout au long de sa psychanalyse, par exemple l'anorexie, et on se rend compte en fait à la fin de la psychanalyse que cette maladie est restée là jusqu'au bout parce qu'elle servait de tuteur et qu'elle permettait finalement d'avoir une maîtrise, vous employez ce terme-là, cette petite maîtrise qu'on a l'impression d'avoir dans les maladies par rapport à l'alimentation, ça permet de se concentrer là-dessus et donc de pouvoir parfois, en tout cas en psychanalyse, régler d'autres problèmes. Et quand elle mange des pommes ou des œufs ou de l'eau, c'est pas dans un but de se faire du mal, c'est au contraire dans un but de se créer une colonne vertébrale. Qui est complètement fausse, bien sûr, et c'est maladif, et finalement c'est évitatif, mais dans sa tête à elle, le fait de savoir que dans sa journée, elle va manger 5 pommes ou 2 œufs, qu'elle va boire telle quantité d'eau, et qu'elle va connaître à l'avance les sensations qu'elle va avoir dans son corps, c'est ça qui la rassure. Elle n'a plus le sentiment de la sensation de faim, elle n'a plus la sensation de rien. Elle connaît, c'est comme si elle réapprentissait. Elle réapprentissait.
Faisait le réapprentissage.
Oui, elle faisait le réapprentissage d'elle organiquement. Et donc on peut voir ça comme une restriction, comme une maltraitance, etc. quand on va bien. Mais si jamais on est passé par des, et d'ailleurs je pense que c'est quand même très commun de passer par particulièrement pour les femmes, de passer par des périodes de régime, des périodes drastiques, des périodes où on s'impose telle ou telle chose, justement pour une raison esthétique ou pour une raison parce qu'on se sent fatigué ou parce qu'on a besoin de plus d'énergie. C'est toujours la même chose. On essaye de régler quelque chose et parfois ça passe par cette alimentation qui finalement n'est plus une alimentation, qui devient qu'une source
Oui, comme vous disiez, une restriction, elle s'enferme, elle est piégée en fait. Elle est de plus en plus recroquevillée en elle et dans ces petits rituels là qui lui permettent de survivre au quotidien et en même temps qui sont en train de l'emmener à sa perte.
Oui, 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 tout à fait. C'est presque son endroit sécure parce que là, comme vous le dites, elle contrôle, elle maîtrise, elle gère, alors que ce qui se passe au dehors, qu'elle aimerait aussi pouvoir contrôler, maîtriser, diriger, lui échappe totalement et la met dans une situation d'insécurité complète parce que en fait, elle s'en rend compte, ses enfants ne correspondent pas à l'image qu'elle a d'eux. Parce qu'elle s'est fait une représentation idéale, comme toute mère, de l'enfant fantasmé qui est parfait et qui va aimer les yaourts et les endives braisées. Et les enfants, bah, c'est pas ça. Et ses enfants la déçoivent. À la fois, elle les adore, mais en même temps, elle les déteste de ne pas être aussi parfait qu'elle souhaiterait les voir.
Oui, oui, et en fait, la difficulté pour elle, c'est que il la renseigne sur ce qu'elle est. Et en fait, à chaque fois qu'ils n'agissent pas exactement comme elle avait prévu, elle n'a pas les réactions qu'elle souhaiterait avoir avec eux. Et finalement, elle se déçoit. Et donc, elle est tout le temps dans un... C'est comme un miroir. C'est pour ça le titre, Ils sont moi, je suis eux. C'est-à-dire qu'il y a cette difficulté de mère... Ils ne sont plus dans son ventre, ils ne sont plus des tout petits bébés, ils ont commencé à aller à l'école, à connaître d'autres choses en dehors d'elle, donc à se faire un avis, à pouvoir dire non. Et en fait, c'est cette difficulté-là, cette charnière-là qu'elle n'arrive pas à faire. Ils ne m'appartiennent pas, ils ne sont pas moi, je ne peux pas les télécommander. Et je ne sais pas quoi faire avec eux, je ne sais pas quoi faire d'eux, je ne sais pas quelle réaction je dois avoir. Je veux les éduquer de telle et telle façon, j'espère qu'ils seront le mieux pour qu'ils soient heureux, parce qu'il y a toujours cette idée-là aussi dans le livre. Elle veut les protéger, elle a peur pour eux, et elle rêve qu'ils soient heureux dans leur vie. Il n'y a pas que les rendre comme... Il y a cette image au bout d'un moment de papillon qu'on épingle... comme les collectionneurs sous un sous-verre, mais il y a quand même cette idée-là qui est récurrente, c'est elle veut qu'ils aillent bien, elle a extrêmement peur des traumatismes qu'elle peut leur infliger, elle a peur des traumatismes qui peut leur être infligé à l'extérieur, à l'école, par un mot qu'on leur dirait. Donc en fait, elle est comme dans une hyper-lucidité de tout ce qui existe, de tout ce qui existe de pire. Et comme elle sait tout ça, elle est responsable et elle essaye de régler les choses avant que l'horreur n'arrive, avant que quelqu'un puisse leur faire du mal, avant qu'ils puissent être choqués par une image. Et elle est complètement submergée par... tout ce qu'elle ne sait pas digérer, en fait, dans son quotidien. Et les peurs qu'elle a pour elle-même.
Oui, oui.
Et qu'elle a peut-être d'ailleurs elle-même traversées.
Jogo d'amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro mal à goia, là que vous me baillez. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Niña tonta, ci tanto chora. Tu chores malacoa, y a la que mi baya. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Elle est dans un débordement d'angoisse absolument permanent, en fait. Elle est dans une grande souffrance. Et c'est important, là, vous évoquez ce qu'elle a pu vivre elle-même. C'est important d'expliquer que dans « Ils sont moi, je suis eux », donc votre roman Alma Brami qui est paru aux éditions Mercure de France, il y a un autre personnage qui est important, qui est le personnage de la mère de la narratrice. Parce que là, on est aussi dans une histoire de transmission et qui est extrêmement importante, avec ce personnage très particulier de la mère, qui est une figure aussi très forte.
Oui, alors, moi, ce qui m'a intéressée, alors, il faut le dire aussi, je ne sais pas comment, si vous l'avez perçu, mais en tout cas, j'ai essayé de faire en sorte que mon personnage, mon héroïne, je parlais de lucidité, d'hypervigilance, etc., mais elle a de l'humour, en fait,
oui. Parce
qu'elle a conscience aussi de ses travers, elle a conscience de ses obsessions, elle a conscience qu'elle ne fait pas bien certaines choses, et c'est ce qui lui rajoute encore plus de peine, puisqu'elle a cette lucidité-là, et donc elle est tout le temps en train d'essayer de contrebalancer, et de s'excuser d'ailleurs, auprès de ses enfants, auprès d'elle-même, et de rétablir les défauts qu'elle a, ou les défauts qu'elle croit avoir. Et le personnage de la mère, il est pour moi, il était très, très, très important, parce que souvent, en tant que parent, on se construit par rapport à l'éducation qu'on a reçue. On se construit avec, on se construit contre, et on a toujours peur de reproduire un schéma, par exemple, qui ne nous aurait pas convenu. Et la difficulté avec mon héroïne, c'est qu'elle est très consciente de ça, elle a travaillé sur les travers de sa mère, mais finalement, elle n'est peut-être pas allée au bout, et elle, en faisant l'inverse, elle fait quelque chose qui... Vous m'entendez toujours ?
Oui.
Ah, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur est devenu noir. Finalement, en faisant complètement l'inverse et en manquant totalement de nuances, elle va faire tout ce qu'il ne faut pas, et elle va faire des choses pires que sa mère a pu faire. Et le personnage de la mère est très important, parce que c'est une femme libre, c'est une femme qui a un avis sur tout, qui a un rapport à sa sexualité tout à fait
libre,
j'allais dire délicieux, enfin libre. Elle se sent très bien avec elle-même, elle se sent très bien avec ses cheveux, parce que je voulais juste revenir là-dessus. Mon héroïne parle de sa tonsure, elle parle de sa perte de cheveux, mais on ne sait pas, c'est son impression, c'est ses a priori sur elle-même, c'est sa façon de se regarder. C'est quelqu'un qui a une dureté, une violence vis-à-vis d'elle, qui ressort justement à travers ce corps-là, à travers les défauts. Elle se regarde, elle voit son visage qui s'affaisse. C'est comme si elle était devenue vieille du jour au lendemain, alors qu'elle ne l'est pas. C'est ça qui est effrayant, tout lui échappe en fait. Et on peut imaginer aussi que pendant qu'elle était enceinte,
Il y a des femmes comme ça qui, pendant qu'elles sont enceintes, elles sont dans une plénitude absolue, des femmes qui grossissent, mais énormément, qui prennent 20 kilos, 25 kilos, 30 kilos, parce que c'est la première fois qu'elles se permettent de manger comme elles veulent, faire ce qu'elles veulent, parce qu'elles se sentent responsables de ce petit être et tout d'un coup, elles ne se sentent plus jugées. Donc peut-être que cette femme-là, elle a eu ces grossesses tout à fait idylliques, et puis l'enfant n'est plus à elle, ne lui appartient plus, n'a plus tout à fait, enfin, elle n'est plus tout à fait essentielle en fait. C'est ça aussi qui est dur pour une mère, c'est de se rendre compte que ce privilège qu'on a et en même temps cette responsabilité pendant qu'on est enceinte, bah, heureusement, mais malheureusement en tout cas pour mon héroïne, ça la quitte. Et elle ne sait pas quoi faire en étant vide, elle ne sait plus quoi faire et elle se rend compte que le lien qu'elle a, qu'elle avait envie, qu'elle rêvait d'avoir avec ses enfants, finalement il lui reproche aussi des choses, il se chamaille, puis il y a cette idée aussi terrible qu'un jour ils vont quitter la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne peut même pas imaginer, ils ont déjà quitté son ventre, comment c'est possible qu'il quitte un jour son foyer, qu'il la laisse seule, qu'il ne se souvienne plus d'elle au sens sacrificielle. C'est ça aussi qui est affreux, c'est que finalement elle est dans une culpabilité permanente de pas faire ce qu'il faut, mais elle les culpabilise aussi en permanence parce qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir cette mère dévouée à leur service, alors qu'ils n'ont absolument pas besoin de ça. Ils aimeraient peut-être une mère qui les laisse un petit peu plus vivre et justement dans le livre il y a un moment pour moi qui est vraiment qui est une clé, c'est quand il y a la notion de secret. Les deux enfants se font un secret, ce qui est commun chez les enfants.
Et elle supporte
tout d'un coup, elle prend conscience. Elle ne peut pas supporter, parce que tout d'un coup, elle n'est plus le centre. Ils ont une vie en dehors d'elle, ils ont une relation en dehors d'elle. Mais c'est quelque chose... Qui elle est alors, si elle n'est plus le centre? Qui elle est, si elle n'est plus leur nombril? Qui elle est? Et c'est ça qui la plonge dans ce désarroi et dans cette presque une dépression, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est peut-être un terme trop psy, mais et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle lutte contre les termes psy de sa mère, qui a tout compris, qui sait tout, qui a un avis sur tout, qui saupoudre Freud partout, Dolto, mais en même temps on comprend que avec toutes ces connaissances qu'elle a pu avoir, elle n'a pas été une mère extraordinaire, parce qu'elle a été une mère extrêmement absente, elle est une mère très très avec un œil très juge, qui condamne, elle n'est pas encourageante, elle aussi attend des choses de sa fille qui ne viennent pas, et elle est dans une incompréhension totale de ce qu'est devenue sa fille. Elle a pas... Voilà, enfin, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est à quel point les relations familiales sont difficiles, à quel point on essaye de faire bien et finalement, on est toujours un peu dans le faux, quoi.
چشمات مثل مسل است، دستات مثل گندم زار، دیم قلبت همش خون، دیم قلبت یک من خون. چشمات مثل مسل است، دستات مثل گندم زار، دیم قلبت همش خون، دیم قلبت یک من خون. تو چشمات مثل مسل است اسمی دنی، دیم قلبت تو همش خون اسمی دنی. دیمین قلب تو یک من خون اسمی دنم، دیمین قلب تو همش خون اسمی دنی. دستات مثل گندم زار، دیمین قلبت همش خون، دیمین قلبت یک من خون. چشمات مثل مثلث تو، دستات مثل گندم زار، دیمین قلبت همش خون،
دیون قلبت یک من خون تا چشمات مثل مثلث است میدنی دیون قلبت تو همش خون است میدنی دیون قلبت تو یک من خون است میدنم دیون قلبت تو همش خون است میدنی چشات مهتاب صدا گندم زار دیمین قلبت همش خون دیمین قلبت یک من خون چشمات مثل مثلث دستات مثل گندم زار دیمین قلبت همش خون دیمین قلبت یک من خون شاد مهتاب قلبت خون صدا
c'est une grand-mère d'Alida Dolto, parce que ça c'est aussi c'est le côté humoristique de la narratrice, c'est une grand-mère extrêmement absente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout étayante par rapport à sa fille qui se débrouille toute seule avec deux enfants quand même, donc elle est en situation de mère célibataire, parce qu'il y a des pères, avec deux enfants à charge, avec tout à charge, et la grand-mère ne les a jamais pris, elle dit toujours qu'elle les prendra, qu'elle les emmènera, qu'elle viendra les garder, mais au final, elle ne l'est pas, donc oui, il n'y a pas d'étayage ni affectif, ni matériel. C'est un personnage qui peut paraître brillant et sympathique, ce personnage de la grand-mère au premier abord, mais quand on creuse un peu, elle est terrible, effectivement. Elle est à la fois dévorante, culpabilisatrice,
Mais ce qui est toujours intéressant, je trouve, quand on rencontre des gens, quand on parle autour de soi, on ne connaît jamais toutes les facettes de quelqu'un. Enfin, c'est très rare de connaître toutes les facettes. Et c'est ça qui est assez captivant. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un et le trouver formidable en tant qu'ami. Ça peut être un ami d'ailleurs très dévoué. Et puis, cette personne-là, en fait, un père ou une mère totalement défaillant ou défaillante, un grand-père ou une grand-mère, ou a été dans le passé un amoureux abominable. Enfin, je trouve que c'est intéressant, en fait, parce que on est tous nuancés. C'est très rare d'être un être humain parfait, et c'est très rare, ça n'existe pas d'ailleurs, et de savoir répondre à toutes les relations qu'on a autour de soi. Et cette grand-mère-là, et c'est pour ça qu'elle est aussi troublante et elle peut être aussi attachante et brillante, comme vous disiez. Parce que j'imagine.
Ah, je ne vous entends plus, Alma.
Vous m'entendez là ?
Ah, là, ça remarche. Là, ça remarche. Bougez plus.
Je sais pas pourquoi. Je ne bouge plus. Donc, ce que je disais, c'est que cette grand-mère peut sembler troublante parce qu'elle est attachante, elle est brillante, elle se sent bien dans sa peau, etc. Peut-être qu'avec les amants, les amoureux qu'elle a, c'est une femme extraordinaire. Peut-être qu'elle est disponible, à l'écoute, chaleureuse, qu'elle sait remonter le moral.
mais avec sa fille, elle ne sait pas. Avec ses petits. Oui, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que on a tendance à imaginer qu'une femme doit être une bonne mère et puis doit être une bonne grand-mère. Bah non. Peut-être que ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Peut-être que c'est pas possible. Et dans le livre, ça aussi que j'aimerais vraiment préciser, il y a pas de jugement. Mon personnage, mon héroïne, moi je la protège jusqu'au bout. Je l'aime jusqu'au bout et j'essaye qu'on la comprenne. Et en fait, j'ai créé mon livre pour que c'est comme si c'était une esquisse au crayon. C'est esquissé et chaque page, on est d'accord avec elle. Sur ses peurs, sur ce qu'elle a envie de bien faire, sur tout ça. Elle esquisse. Et en fait, le trait devient de plus en plus précis, devient de plus en plus gras, et finalement, ça devient une caricature. Mais, et c'est...
Oui, mais il y a un côté miroir quand même. Quand on lit votre livre, on se reconnaît forcément dans certains traits de ce personnage.
Totalement. Totalement, parce que je trouve ça terrible à chaque fois de parler d'une histoire tragique. Mais même, par exemple, c'est quelque chose moi, qui me fascine toujours. Moi, j'adore les faits divers. J'adore les faits divers, pas parce que c'est excitant, pas parce que ça me fait jubiler. C'est pas du tout ça. J'aime les faits divers parce qu'il y a l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? 20 minutes avant ? 1 heure avant ? 2 ans avant ? Qu'est-ce qui se passe pour arriver à ce point-là de non-retour ? Et je trouve ça toujours très dangereux quand on parle de quelqu'un qui a commis un acte irréparable et de dire c'est un monstre. Je pense que c'est un terme totalement inapproprié. Au contraire, c'est un être humain. Et c'est un être humain et c'est ça qui nous fait peur. Parce que si c'est un être humain, il est comme nous. Exactement, le miroir dont vous parliez. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans mon livre. C'est que c'est une mère. Voilà. C'est pas une mère monstrueuse, c'est pas une mère. C'est une mère. C'est une mère qui fait avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle a compris, avec ses lacunes, avec ses failles, avec sa peur de l'abandon. Elle se dépatouille comme elle peut. Donc évidemment, peut-être qu'elle aurait eu besoin d'une psychanalyse, ou peut-être qu'elle aurait pas dû avoir d'enfant, ou peut-être j'en sais rien. Mais c'est pas à nous de le dire. En tout cas, c'est son parcours à elle.
Ça s'appelle « Ils sont moi, je suis eux », c'est d'Alma Brami, c'est paru au Mercure de France et c'est vraiment à découvrir parce que c'est un roman extrêmement fort. Merci beaucoup Alma Brami pour ce livre et pour cet entretien. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
On arrive à la fin de cette émission de rentrée d'idéaux et débats. C'était un vrai plaisir de vous retrouver, c'était un vrai plaisir de lire ces livres et de pouvoir rencontrer leurs auteurs. Donc je vous rappelle que nous avons parlé de Trust, roman d'Hernan Diaz qui est paru aux éditions de l'Olivier et qui a eu le prix Pulitzer 2023, et de Ils sont moi, je suis eux, roman d'Alma Brami paru aux éditions Mercure de France. Et on continue bien sur notre lancée puisque dans 2 semaines, nous retrouverons Agnès de Sarthe pour son dernier roman paru également aux éditions de l'Olivier. Et il y aura également la chronique de Gérard Guégan. Et puis plein de bonnes choses à venir. On parlera de Shakespeare, on parlera de photos et de pauvreté avec Franck Courtès. On parlera vraiment, vraiment de plein de choses. Et puis il y aura peut-être une surprise particulière pour cet automne. Mais ça, je vous en dirai plus dans la prochaine émission. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, c'est 89,4 MHz.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris. Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Chanter, c'est survivre quand on est vidé, vidé de ses illusions, tout nu et tout con, essoré, déboussolé, cassé, piétiné. Je ne suis ni meilleur ni plus mauvais que vous. Contre vents et marées, envers et contre tout, j'ai chevillé dans le cœur un rêve de bonheur. Se lève, chasse mon chagrin. Un geste, un regard, un mot, un ami qui vient. Deux arbres dressés dans le ciel, la lune et la nuit. Deux amours font comme leurs parents. Une fille qui revient d'un voyage très loin. Très